J'invite à prendre vos Bibles et retrouver Matthieu, mais cette fois-ci le chapitre 5. Vous savez maintenant que nous passons à 3 cultes ensemble par mois. Et quoique l'expérience a été plutôt belle, d'essayer de coordonner les messages à Sarcelles avec ceux de Saint-Denis. Nous avons réalisé que ce sera beaucoup plus dur maintenant, parce que parfois, même aujourd'hui, j'ai appris que Albert allait diviser son texte en deux, et donc voilà, de rester en phase l'un avec l'autre devient de plus en plus difficile. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de revenir en tant qu'assemblée ici à Sarcelles et sur les béatitudes. Donc nous allons rester en Matthieu, comme il le sent en Matthieu. Et puis le premier dimanche du mois, quand nous sommes avec eux, eh bien, puisque nous sommes la fille et elle est la mère, nous allons céder à leur série qu'ils font. Et retrouver plus loin en Matthieu parce qu'ils avancent plus vite. Et nous allons faire une série sur ces béatitudes. Et donc nous revenons au verset 4 de Matthieu chapitre 5. Et nous avons vu il y a 3 semaines de cela que le sujet de tout ce serment, hein, Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, c'est un très long serment de Jésus. C'est plus long que plusieurs des épîtres de Paul. Et que le sujet, c'est l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume des cieux. Attaché la bonne nouvelle, toujours attaché à cette idée que Jésus présente du royaume des cieux. Et Jésus, pour pas se confondre, a enseigné 2 aspects du royaume. Il y a un aspect actuel ou présent, marqué par le règne spirituel de Jésus-Christ dans le cœur de l'homme. Jésus est roi. Il est notre roi. Et nous, si nous êtes en Christ, nous faisons partie de son royaume. Mais aussi, il y a un aspect futur, quand le royaume viendra en pleine puissance millénaire et Christ règnera visiblement sur la terre. Donc, il y a ces 2 aspects du royaume. Donc, le royaume de Dieu, dans un sens, est venu en Christ. Et nous devons considérer ce royaume comme principalement dynamique plutôt que géographique. Ce n'est pas qu'on peut prendre un avion et aller trouver le royaume de Jésus-Christ. C'est qu'il y a des gens qui font partie de ce royaume et ils se trouvent éparpillés sur toute la terre. Donc nous pouvons dire que le serment sur la montagne parle de la vie dans le royaume, ou la vie des citoyens du royaume, non pas dans un âge futur, mais ici et maintenant dans un monde déchu. C'est ça le thème de tout ce serment. La vie des citoyens du royaume, du ciel, dans ce monde déchu. Et quand vous lisez le sermon sur la montagne, vous réalisez que c'est un monde réel et plein de péchés. Il y a des receveurs d'impôts. Alors, qui veut dire qu'il y aura ça au ciel? J'espère que non. Il y a des officiels injustes, il y a des hypocrites, il y a des voleurs, il y a ceux qui sont faibles et pauvres, il y a des faux prophètes. Nous trouvons toutes ces personnes dans ce serment. Donc, je l'aime l'appeler la vie du royaume des cieux dans un monde déchu. Un citoyen d'en haut dans le monde ici-bas. C'est le sujet, le thème de ce serment. Et de plus, nous devons nous rappeler que Jésus décrit les citoyens de ce royaume. Et quand il commence son message, et nous sommes tout au début en lisant ces versets, ces béatitudes de son message, il décrit en fait les citoyens de son royaume. Et il les décrit comment? Ils sont quoi? Il le dit à plusieurs fois. ils sont heureux. Pour décrire les citoyens du royaume du ciel, Jésus lui-même les décrit comme des personnes heureuses. Il les décrit à plusieurs fois qu'ils sont bénis. C'est ça, cette idée de béatitude bienheureuse vient de cette idée. Et c'est ici, il parle d'une expérience personnelle de joie. C'est-à-dire, ils connaissent personnellement la joie. Mais plus que ça, ça parle aussi d'une approbation divine. C'est-à-dire que Dieu, il regarde certaines personnes, peut-être dans cette chambre, dans cette salle, et il dit, cette personne, je la déclare heureuse. Une approbation divine. Sa situation, c'est une situation heureuse. Son identité, c'est une identité heureuse. Cette personne, elle est heureuse. Vous regardez certaines personnes dans la vie, vous dites, ben dis donc, regarde cette maison, cette voiture, cette famille, ça doit être une personne heureuse. Dieu regarde certaines personnes, pas toutes, mais il y a des personnes qui regardent, il dit, ah, avec cette identité, avec cette connaissance, cette personne est heureuse. Et il y a une catégorie donc de personnes qui déclarent bénies. Et quand nous arrivons au verset 3, nous avons de nouveau quand même une vraie surprise. Au verset 4, pardon. Parce qu'il dit au verset 4, « Heureux les qui ?» Voilà, nous avons soit les affligés, soit traduit « ceux qui pleurent ». C'est Louis II qui dit affligé, ceux qui mènent le deuil, c'est le Darby. L'Osterwald dit ceux qui sont dans l'affliction. Et plusieurs traductions disent ceux qui pleurent. Alors, quand vous lisez cela, vous devez quand même vous demander ce que Jésus veut dire. Au mieux, cela ressemble à une contradiction très inhabituelle et au pire, une déclaration complètement dénuée de sens. Heureux ceux qui pleurent. C'est comme si on disait heureux sont les tristes. On dirait qu'on se contredit. Eh bien, c'est vraiment un paradoxe. Un paradoxe, c'est une affirmation surprenante en son fond ou en sa forme qui contredit des idées reçues ou l'opinion courante ou les préjugés. Donc, véritablement un paradoxe. Un auteur, Chesterton, il a défini un paradoxe comme une vérité qui se tient sur la tête pour attirer l'attention. Il dit, regardez-moi, c'est une vérité qui se tient sur la tête pour attirer notre attention. Et Jésus dit, et heureux ceux qui pleurent. Et Jésus annonce une approbation divine, c'est les applaudissements du ciel, quelqu'un a appelé ces versets. Sur ceux qui pleurent dans ce monde, sur ceux qui font le deuil. Alors, posez-vous la question, êtes-vous en deuil? Avez-vous vraiment pleuré? Et si oui, si vous avez connu cette affliction de l'âme, qu'est-ce qui vous a tellement bouleversé? Qu'est-ce qui vous a mis dans une telle angoisse de l'âme? C'est ça la question que nous avons nous posée. Donc nous allons regarder l'affliction qui est bénie et puis le confort qui est promis. Donc d'abord l'affliction. Quelle est l'affliction qui est bénie, qui est déclarée heureuse ici? Est-ce que c'est n'importe quelle affliction? Affliction veut dire douleur profonde, généralement durable, accompagnée d'un abattement de l'esprit. Et donc nous voulons voir donc nous poser la question, c'est quoi le sujet de l'affliction qui est béni? Pourquoi est-ce que nous sommes affligés? C'est ça la question. Et nous avons cette expression, ce qui est fait, ça ne sert à rien de se lamenter. Mais quand vous pleurez, il y a normalement une raison. Les enfants pleurent souvent, les adultes presque. Autant souvent, hein. Enfin ça dépend qui c'est. Mais Jésus parle-t-il ici de pleurer pour rien? Ou peut-être il parle de pleurer pour des raisons importantes, comme la perte d'une amitié, ou la perte d'un être cher, ou la perte d'un travail. Est-ce qu'il dit ceux qui sont dans l'affliction parce qu'ils ont perdu leur travail? De quoi parle Jésus ici? Alors j'espère que nous nous rendons compte que nous devons approcher ces béatitudes comme nous devons approcher n'importe quelle phrase proverbiale, ou un aphorisme, ou une maxime. Parce qu'un proverbe, ou une vérité, ici par exemple, ne peut pas être compris dans l'isolation. Par exemple, si je vous disais, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Okay. Si vous dites cela à quelqu'un qui est incapable de raisonner avec l'aide d'une plus grande base de données, cette personne va vous regarder avec une drôle d'expression et va se demander pourquoi vous parlez des ours et de leur peau. Donc tous ces proverbes viennent avec une plus grande base de données, une plus grande base de connaissances. Donc tous ces proverbes que nous avons en français, c'est un peu la même chose. Et c'est la même chose avec ces béatitudes. On ne peut pas les prendre et les isoler sans prendre en compte toute la base de données que nous donne l'Écriture. On ne peut pas dire tout simplement « heureux les affligés, point final », sans comprendre ce que Jésus veut dire par cela, sans prendre en compte ce que Jésus a dit ailleurs et ce que la Bible dit ailleurs. À un moment, dans son ministère, Jésus dit ceci, écoutez, « Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » Dans un seul verset, nous trouvons quatre animaux. Quatre animaux. Et donc, il faut une connaissance générale du monde pour pouvoir comprendre ses propos. Il faut savoir comment c'est des loups, les moutons, les colombes et les serpents. Et donc, quand Jésus parle ici, sur la montagne, et le Saint-Esprit nous souffle cette béatitude, il faut prendre tout ce que dit la Bible pour pouvoir bien comprendre ce que Jésus veut dire ici. Et ce que j'essaye de dire, c'est que nous risquons de manquer le point principal que Jésus veut communiquer si nous ne plaçons pas cette béatitude dans la plus grande base de connaissances que nous trouvons dans le reste de l'Écriture. Et c'est ce que je veux faire. Et je vais vous donner un exemple biblique. Prenez par exemple Hébreux 12, 17, nous met ici, qui parle d'Ésaü, le frère à Jacob. Et Ésaü a vendu son droit du premier-né pour un repas, pour une soupe, pour un bol de soupe. Et Hébreux 12, 17 nous dit, « Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. » Alors voici quelqu'un qui pleure, mais est-ce qu'il est consolé? Oui ou non? Non, il n'est pas consolé. Il a cherché avec des pleurs, mais il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Alors nous pouvons dire qu'Ésaü a pleuré la perte de sa bénédiction, bien sûr. Mais a-t-il été consolé? Non, il a été rejeté. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Ésaü est bien heureux? Heureux Ésaü parce qu'il a été affligé, non? Donc, quoi que Jésus dit dans notre texte, heureux les affligés car ils seront consolés, nous voyons que tous ceux qui pleurent ne sont pas bénis. Nous avons aussi l'exemple d'Akab, par exemple, qui lamentait un vigneron de Naboth. Il a dit, il s'est couché sur son lit, il refusait de manger même. On peut penser aussi à Amnon. Et la Bible dit en 2 Samuel 13, 2, qu'il a été tourmenté jusqu'à se rendre malade par convoitise pour sa demi-sœur. Il a fini par la violer. Mais il est tourmenté. Voici quelqu'un qui est affligé simplement parce qu'il ne peut pas étancher sa convoitise. On peut penser aussi au roi Saül en 1 Samuel 15, 24, qui semble pleurer sa faute devant Samuel, mais en fait, il ne pleure que les conséquences de son péché. Et Samuel dit, non, tu n'auras pas le royaume. Il sera donné à quelqu'un d'autre. Il n'est pas consolé. Et on peut parler aussi de Judas, qui a confessé ouvertement son péché, qui s'est donné la mort dans l'angoisse et le désespoir total. Et aucune de ces personnes n'a été décrite comme heureuse ou bénie par l'Éternel. En fait, Jésus lui-même décrit l'enfer. Comment ? Il décrit comme un endroit où il y aura des pleurs, des grincements de dents, un tableau triste et en effet sans aucun espoir, sans aucune consolation. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Il prononce l'approbation divine et annonce la félicité éternelle sur ceux qui pleurent. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est là où le contexte peut nous aider. Parce que les quatre premières béatitudes concernent la relation entre le citoyen du royaume et Dieu. Et remarquez le fil de la pensée ici. C'est comme dans les psaumes, il y a une structure même aux béatitudes. Le verset 3, regardez le verset 3. « Heureux les pauvres en esprit !» Heureux les pauvres en esprit. Alors vous vous rappelez peut-être que nous avons utilisé deux mots pour décrire cette pauvreté. Le dénuement absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, et la dépendance totale. Dans ce domaine spirituel, il reconnaît qu'il n'a rien à offrir à Dieu et il est complètement dépendant de Dieu. Donc c'est une reconnaissance du dénuement spirituel et de la dépendance totale de Dieu. Alors, imaginons que vous êtes d'accord avec le verset 3. Vous dites, c'est moi. J'accepte que je sois pauvre en esprit. Je n'ai rien à offrir à Dieu. Ok, question maintenant. Comment vous sentez-vous à propos de cette réalité? Êtes-vous satisfait de cette condition? Vous dites, oui, j'ai rien à offrir à Dieu, mais ça ne me gêne pas trop. Vous savez, il y a dans toutes nos grandes villes, il y a ce qu'on appelle les SDF. C'est une culture vraiment assez forte en France. Et certaines de ces personnes ne sont pas sans domicile fixe par exigence ou nécessité, seulement ils le sont par choix. J'écoutais il y a quelque temps à la radio, le témoignage d'un homme qui a dit exactement cela. J'ai fait le choix, il a dit, de ne pas travailler et de vivre comme SDF. Il a dit, c'est vrai, j'ai pas de salaire, mais j'ai pas de travail, j'ai pas de responsabilité. C'est mon choix, la drogue, tout ça, c'est un choix qu'il avait fait, il assume le choix qu'il a fait. On pourrait dire donc qu'ils sont pauvres dans une certaine mesure. Mais ces personnes qui y sont par choix, ils ne pleurent pas leur pauvreté. Ils sont plutôt satisfaits de leur vie. Et donc, si on applique tout cela au domaine spirituel, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent un certain degré de pauvreté spirituelle, bien qu'ils ne réalisent pas la gravité de la chose. Mais est-ce qu'ils pleurent leur indigence spirituelle? Sont-ils affligés de leur condition spirituelle devant Dieu? Donc il y a, vous voyez, une progression dans ces béatitudes. Il y a d'abord la réalisation de notre pauvreté spirituelle au verset 3, qui devrait nous conduire maintenant au verset 4 à une affliction de l'âme. Donc nous pouvons dire que le sujet de l'affliction est sa propre pauvreté spirituelle. Les personnes heureuses, ce ne sont pas les gens qui boudent toute la journée, qui sont toujours déprimés à cause du temps et à cause de ceux qui les entourent. Non, ces personnes sont malheureuses. Mais une personne heureuse, c'est quelqu'un qui est affligé à cause de son propre dénuement spirituel. Nous devons pleurer donc notre péché et ses effets dans nos vies. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 1377, le roi français Charles V, à ne pas confondre avec Charles Quint de l'Allemagne deux siècles plus tard, mais on l'appelait Charles Sage, il a demandé, il voulait une traduction en français de la Bible. Nous sommes au 14e siècle. Nous sommes 250 ans avant la réforme et un roi français, il veut une traduction française de la Bible pour lire. Écoutez la traduction de Raoul de Presley dans sa traduction de 1377. Il traduit ce verset ainsi. Bon, c'est appelé différemment, bien sûr, parce que j'ai à l'entendre cela. Ceux qui pleurent pour leurs péchés par vraie contrition sont bienheureux, je veux dire, parce qu'ils seront confortés. C'est une belle interprétation de ce que Jésus est en train de dire. Bon, on ne trouve pas les mots « péché » dans le grec, mais il a bien saisi le sens de ce que Jésus dit, et il le traduit pour le roi « ceux qui pleurent pour leur péché par vraie contrition ». C'est exactement ce que je crois Jésus est en train de dire. Il y a 3 semaines, nous avons parlé de notre pauvreté spirituelle, mais qui parmi nous est rentré chez lui pour vraiment pleurer et lamenter ce fait? C'est facile de dire, oui, je suis pauvre, je n'ai rien à offrir à Dieu. Mais qui a été affligé par ce fait? Trop souvent, notre expérience de notre propre péché est celle décrite par le grand poète anglais du XVIIIe siècle, qui parle du mal et du vice. Il dit, le vice est un monstre si hideux que pour haïr, il suffit de le voir. C'est terrible. Cependant, vu trop souvent, on s'habitue. Il se familiarise à nos yeux. D'abord, nous le souffrons, ensuite, nous le plaignons. Et enfin, nous finissons par l'embrasser, nous l'embrassons. Et même en tant que chrétien, souvent notre propre péché, nous regardons une première fois, c'est terrible. Mais on s'habitue. On s'habitue et on finit par l'embrasser. Alors si on vous demandait, êtes-vous affligé? Je vous demande tous de se poser la question. Vous allez dire, oui, tous les jours je suis affligé. Mais tous les jours j'ai des problèmes. Et si on vous disait, d'accord, mais racontez-moi ce qui vous afflige. Racontez-moi ce qui vous fait souffrir. Qu'allez-vous dire? Alors, vous savez, c'est ma santé. Ou c'est ma famille. Ou c'est mes parents, mes enfants. Vous savez, c'est mon patron. Ah, c'est mes études. Mais Jésus ici déclare que celui qui est heureux est celui qui dit, vous savez, ce qui m'afflige le plus au quotidien, c'est mon propre péché. Alors, qu'est-ce qui nous déplaît le plus? Quand quelqu'un pêche contre nous ou quand nous péchons contre Dieu? Vous savez, c'est facile de créer l'affliction dans une famille. Pécher contre la personne. Et tout de suite, il y a l'affliction, il y a la guerre même. Regarde ce qu'on m'a fait. Et ça nous fait pleurer même parfois. Nous pleurons les péchés des autres contre nous. Heureuse la personne qui pleure ses péchés contre Dieu. C'est ce que Jésus dit ici. Alors, quel est le type, donc, d'affliction qui est béni? Quelle sorte d'affliction? Quel genre d'affliction, si vous voulez? Eh bien, en Jacques, chapitre 4, je l'ai ici, écoutez ces versets. Saint-Esprit dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et notez l'accent mis ici sur l'humilité. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, voyez, ça c'est l'affliction ici au verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, c'est le même mot qui est trouvé en Matthieu 5, verset 4. Soyez, traduit ici, soyez dans le deuil. et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie se change en tristesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par tout cela? Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc la douleur pour le péché est une douleur qui est véritablement humble devant Dieu. Une affliction qui s'humilie devant Dieu. Pas qui s'affiche devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se battaient ou ils font des jeûnes vraiment ouverts ou ils font des sacrifices vraiment très difficiles. C'est presque comme pour s'afficher devant Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Comment je lamente mon propre péché. Non, là, c'est une affliction humble devant Dieu. Jonathan Edwards réfléchissait sur le fait que certains, à son époque, là, nous sommes à 300 ans maintenant, et aux États-Unis, mais ils utilisaient un langage très humble d'eux-mêmes, mais qui pouvait être en même temps très orgueilleux. Il y avait des personnes comme ça dans ces églises. Et donc, il a parlé de ces personnes. Il y a des personnes qui disent « Je suis une pauvre créature vile, » disent-ils. « Je ne suis pas digne de la moindre miséricorde ou que Dieu pose ses regards sur moi. Oh, que mon cœur est horriblement méchant. Mon cœur est plus mauvais que le diable. Oh, ce maudit cœur qui est le mien. » etc., etc. Hein, c'est de belles paroles. Mais lui, il a dit, de telles expressions sont très souvent utilisées, mais pas avec un cœur brisé. Il y en a beaucoup qui sont pleins de ces expressions, de leur propre indignité, mais qui pourtant s'attendent comme un dû à ce que les autres les regardent comme éminents et brillants. Un test, je me rappelle, mon père disait ça, il a dit, un test pour savoir si vous êtes vraiment humble, c'est quand vous priez, vous dites, Seigneur, je ne mérite rien. Seigneur, je suis le plus grand des pécheurs. Et que celui à côté de vous dit, Amen. Amen. Allez, comment sera votre réaction quand il démontre son accord avec vos paroles? Dans une sous-culture que nous avons, où l'humilité en fait est honorée, quelqu'un qui vient devant l'église peut dire hey, « Regarde ce que j'ai fait, bon, on va pas lui donner beaucoup d'attention. » Nous sommes tentés de feindre l'humilité par l'orgueil. Ceci est très, très dangereux. Dans notre culture, nous avons certaines façons, vous savez, d'afficher le chagrin et la tristesse. Et une façon presque proverbiale est d'offrir des fleurs. Si vous avez blessé une femme, on dit que vous pouvez tout régler avec des fleurs. Et j'ai même trouvé un site qui vend des fleurs qui dit ceci. Vous pensez devoir des excuses à quelqu'un? Quoi de plus approprié que d'envoyer des fleurs ou lui faire parvenir un cadeau par le service de livraison de fleurs à Queen? En effet, dans certaines situations, il est nécessaire de savoir demander pardon. Présenter ses excuses assure la qualité des relations entre les êtres et renforce l'amitié par la confiance. Offrir des fleurs pour demander pardon, un geste raffiné et plein d'élégance, vous permettra de vous excuser et votre destinataire en sera très ému. Et il suffit de cliquer et payer 45 euros pour le faire. Mais chaque femme sait qu'un rite externe sans l'humilité interne du cœur est en fait révoltant. Révoltant. Et c'est si facile de dire « Désolé, pardon » sans avoir une douleur humble. Vous savez, dans l'époque antique, ils avaient leur façon de démontrer leur chagrin. Mais ce n'était pas qu'ils donnaient des fleurs, c'est qu'ils déchiraient leurs vêtements. On lit souvent ça. Et tout a bien commencé, j'imagine, au début. Mais il est venu un moment où le rite extérieur avait remplacé, en fait, le deuil interne. Et donc, un mari rentrait chez lui très tard le soir et Sa femme lui dit, mais où étais-tu? Il dit, oh, pardon. Il déchire son vêtement, il dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on mange? Où il y a le jeune adolescent qui détruit le seul chariot de la famille, il dit, oh, désolé papa. Voilà, on peut passer à autre chose. Et on fait ça aussi, n'est-ce pas? On s'est très vite demandé pardon. Je me rappelle une fois, j'étais adolescent et mon père m'a dit, il était frustré avec moi, il m'a dit, mais tu sais, toi, à chaque fois, tu fais ce que tu veux et après tu demandes pardon, comme si rien n'était. Et ça m'a beaucoup blessé, parce que moi je pensais faire une bonne chose chaque fois que je demandais pardon. Mais lui, il s'énervait parce que ça se recommençait à chaque fois. Mais nous faisons cela souvent avec nos femmes, nos maris, les enfants vers leurs parents. Très souvent, on dit à un frère, dis pardon à ta sœur, pardon. Voilà. Et c'est pourquoi Joël s'adresse au peuple de Dieu. À un moment, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez avec à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Mais attention, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce qu'ils venaient devant Dieu et ils déchiraient leurs vêtements pour démontrer qu'ils étaient dans le deuil. Il dit, non, déchire ton cœur, pas ton vêtement. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais il faut revenir à lui avec le cœur. Donc ce n'est pas un rite externe, c'est le cœur interne qui est recherché. Et la façon de reconnaître une affliction véritable et humble est en fait qu'elle n'est pas centrée sur soi. On revient à Ésaü, si vous connaissez l'histoire d'Ésaü, et après il regrette ce qu'il a fait. Il a dit, mince, j'étais bête, pourquoi j'ai fait ça? Il commence à pleurer. Et en fait, sa douleur n'était autre que l'apitoiement de soi-même. En fait, il regrettait les conséquences. Moi, je me rappelle aussi avoir agonisé parfois sur des fautes que j'avais commises, mais purement et simplement en raison des ramifications que je savais qu'elles allaient m'apporter. C'est un peu comme un enfant qui pleure parce qu'il sera puni, mais pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas la même chose. Et il serait utile de mettre en contraste le chagrin d'Ésaü avec celui de David. David exprime sa tristesse et son affliction à cause de son péché. Bon, on ne va pas parler de ce qu'était son péché, mais il était grave. Mais notez que sa tristesse est centrée sur Dieu. Il dit, car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire, je ne mets pas de côté. J'ai péché contre toi seul, il parle à Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous voyez, il ne s'excuse pas. Il dit, mais regarde, c'était là, je ne pouvais rien faire, si vous voulez. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné. David ne fait pas cela. En sorte, il dit en fait que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça, c'est une vraie confession. Quand on dit à Dieu, quand on justifie Dieu, en fait, tu as le droit de me juger. Tu as le droit de me condamner. Tu dis que je suis pécheur et moi je dis que tu as raison. Je ne présente pas d'excuses. Mais ma famille, ma jeunesse, ma faiblesse. Ce psaume 51 est adressé à Dieu et contient en fait 31 références spécifiques à Dieu en seulement 21 versets. Quelqu'un dit, c'est la notion que nous avons du mal, que dépend l'ensemble de notre foi. Si, à mes yeux, le péché n'est qu'une imperfection relative ou un désordre excusable, je croirais sans peine que pour sauver l'homme, il suffit de l'appuyer sur lui-même et de lui enseigner une morale pure et de lui proposer un sublime exemple. Mais il dit, donnez-moi au contraire une vraie conviction du péché. Et sur ce fondement, je reconstruis pierre à pierre tout l'édifice ébranlé des vérités évangéliques. La nécessité d'une révélation surnaturelle, la divinité du Sauveur, la rédemption par son sang, par son sacrifice, etc. Il dit, toute la bonne nouvelle peut être érigée sur la base d'une vraie compréhension du péché. Mes amis, si le péché n'est pas si grave, pourquoi Dieu a-t-il crucifié son Fils ? Nous avons besoin peut-être d'un enseignant, mais pas d'un sauveur. Un chrétien, quelqu'un qui sait, il dit, moi je suis quelqu'un qui a tellement péché que quelqu'un a dû mourir pour moi. Voici la gravité de mes péchés. Donc le sujet de l'affliction, c'est notre pauvreté spirituelle. Le type d'affliction qui est béni, c'est une affliction sincère et humble. Et le résultat de l'affliction qui est béni, ce que ça nous pousse à faire, c'est la repentance. Et je veux lire quelques versets en 2 Corinthiens 7 qui juxtaposent deux sortes de douleurs. L'une est appelée pieuse, c'est une douleur pieuse, ou une douleur qui est selon la volonté de Dieu, et l'autre, c'est une douleur qui amène à la mort. Parce que nous avons vu Ésaü, Saül, Amon, tout ça, ils connaissaient la douleur. Mais ça n'a pas apporté la vie. En 2 Corinthiens 7, verset 6, il dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Pourquoi est-ce que Tite était-il consolé? Ben, écoutez, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes. Vous voyez, nous sommes dans l'abattement ici. Vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, il dit, je me réjouis à cette heure. Ah, ils ont été attristés, Paul se réjouit qu'ils ont été attristés. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas simplement que vous avez été attristés, c'est pas parce que je suis content que vous êtes triste, j'aime la tristesse. Non, il dit, mais parce que votre tristesse vous a porté à quoi? À la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu, vous voyez, l'affliction selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut, dont on ne se repente jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, c'est l'affliction que Jésus déclare bénie, une affliction qui nous pousse à la repentance. Et puis la durée de l'affliction. La durée de l'affliction. J'ai trouvé une fois une lettre intéressante à un éditeur d'un journal américain concernant les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Et cet homme qui s'appelle Georges Thomas, il a dit ceci. Et je l'ai entendu depuis en France, mais je ne l'ai pas remarqué. Il a dit, mais en fait, cette idée, il dit, c'est une victoire pour les terroristes chaque fois que nous pleurons ce jour-là. Je me suis occupé à ignorer le 11 septembre et à continuer à vivre ma vie presque depuis le premier jour. C'est mon devoir patriotique de le faire. Voilà. Donc pour lui, notre devoir, c'est d'oublier les attaques terroristes. Alors, est-ce que c'est votre point de vue? Selon ce monsieur, pleurer, c'est reconnaître sa défaite. C'est patriotique d'ignorer, d'oublier. Et certaines personnes, bon, pour ceux qui concernent la politique, c'est autre chose, mais certaines personnes ont cette image, ont cette vision du péché. Ils agissent comme si c'était notre devoir spirituel d'oublier notre péché, en fait, et de continuer la vie. Ils ne comprennent pas quand David dit « Mon péché continuellement devant moi ». Mais Matthieu 5,4 dit « Heureux ceux qui mènent le deuil dans le derby » ou « ceux qui sont dans l'affliction » ou « ceux qui pleurent ». C'est un participe présent, c'est-à-dire c'est une activité continuelle et actuelle. C'est une triste erreur de penser que le repentir à cause du péché est un événement ponctuel qui ne dure pas toute une vie. Bon, j'ai fait ça quand j'ai prié le Seigneur pour me sauver. Je me suis repenti, voilà. Maintenant, je continue ma vie. Non, la Bible dit que nous devons confesser nos péchés, il est fidèle, mais nous confessons journalement nos péchés. Le puritain anglais du XVIIe siècle, qui s'appelle Jeremy Bureau, il a dit ceci. Il a dit, il y a une grande erreur dans le monde, en ce qui concerne le trouble à cause du péché. Ils pensent que la repentance ou l'affliction à cause du péché n'est qu'un seul acte. Que s'ils ont une fois été troublés à cause du péché, ils n'ont plus besoin d'en être jamais troublés de nouveau. C'est une dangereuse erreur car nous devons savoir que la vraie tristesse à cause du péché, la vraie repentance, est un acte continuel qui doit demeurer toute notre vie. Et ce n'est pas seulement lorsque nous sommes effrayés que Dieu nous... ne pardonnera pas notre péché. Quand nous avons peur d'être damnés à cause de nos péchés, non, ce n'est pas que dans ces circonstances, mais quand nous venons même à espérer que Dieu nous pardonnera, oui, quand nous venons à savoir que Dieu nous a pardonné nos péchés, c'est-à-dire même quand on a la confiance que oui, Dieu me pardonne, au même temps, on doit quand même pleurer notre péché. Alors, le temps nous manque. Alors, je vais m'arrêter ici. Mais si je peux vous demander à chacun de nous d'aller individuellement devant le Seigneur et lui dire et lui demander et chercher notre cœur et nous demander qu'est-ce qui me tracasse le plus? Qu'est-ce qui m'attriste le plus dans ma vie? Seigneur, aide-moi à être affligé et à pleurer mes propres péchés. Et si vous faites cela, Jésus promet, vous serez consolés. Prions le Seigneur.